Bonsoir tout le monde.
Bonsoir à tous.
Salut à tous.
Bienvenue dans ce... voilà, là c'est bien. Bienvenue à vous dans ce nouveau live où on va dire qu'on va faire une pause pour reculer un peu pour mieux sauter par la suite parce que le mois d'octobre, ceux qui ne savent pas ce qui se passe, ils auront l'impression qu'on les a mis dans un shaker et on est en train de faire du café frappé, tu vois. C'est, ça va partir dans tous les sens, ça va être... Donc, avant d'arriver au mois d'octobre et commencer à voir des choses très étranges dans le monde, on va faire cette petite pause où on va rediriger un petit peu, replacer un petit peu le contexte global, exprimer un petit peu les opinions des décodeurs, parler un petit peu de notre phare de l'espoir, quelle est l'ampoule de ce phare, parce que chaque phare, il a une ampoule, ben, on va vous parler de notre ampoule. Et à la fin de tout ça, si ça nous prend pas 14 heures à l'expliquer, on va échanger un petit peu ensemble. Donc, les amis, sans plus tarder, magnifique musique. Avec magnifique paysage, on va garder ça pour après peut-être. On commence le live. Toc toc. Obama qui regarde et il y a Durham derrière la porte. Durham, n'oubliez pas, il y a eu la première inculpation. Ça va enchaîner. Si la première est sortie, ça va enchaîner. Les inculpations sous scellement. Il y a une raison pour laquelle elles sont sous scellement et quand il y en a une qui part, le tsunami suit derrière dans peu de temps. Ensuite, la blague du jour. Sachez que Rémi le poulet ne croyait pas au complot. Il disait que celui qui fait chaque jour déborder la mangeoire ne peut pas lui vouloir du mal. Ne soyez pas comme Rémi.
Soyez méfiants.
Ça, j'ai trouvé ça pas mal et merci à Alain, j'ai trouvé mon assistant blague qui m'envoie des trucs à la con comme ça, tu vois, et ça me fait rire et du coup je me dis, je les partage. Merci
Alain. Contacte-moi, moi j'aime bien moi les blagues aussi Alain. Ça me fait penser à mes poules d'ailleurs ces histoires-là. Je sais que vous en avez parlé.
Les miennes vont pas tarder à arriver, les dernières elles ont été annulées, il y a 7 poules qui vont arriver bientôt. Nice. Annonce pour le prochain live. Donc, puisque on était censé en parler ce soir, mais vu le sujet, vu la pause, on voulait pas trop se mettre la tête là-dedans. On va parler au prochain live de Julian Assange et on va essayer de faire ça avec le plus de détails possible, parce que c'est un personnage central dans ce qui vient par la suite, notamment avec l'affaire Pizzagate, entre autres, ok. Donc, on l'annonce maintenant au cas où il arrive des choses d'ici vendredi, tu vois, parce que il y a des Delta de Q qui parlent d'Assange, donc...
Disons qu'elle est revenue sur le devant des médias, en fait. Il a fait les premières pages dans beaucoup de médias. Et le timing, il est pas anodin, et puis ça renvoie à des choses intéressantes. On vous le garde pour vendredi. On va voir comment ça évolue, et de toute manière, ça sera bien plus pertinent vendredi. Donc,
On l'annonce dès maintenant parce que c'est un sujet quand même, à chaque fois qu'on parle d'Assange, on doit préciser derrière. Comme ça, on aura un passage où on dira, voilà, si vous voulez savoir plus, allez là.
En plus, il paraît qu'ils ont publié les mails de Wikileaks. J'ai reçu un email qui me disait ça.
Ah bon?
tu sais, d'ailleurs, maintenant qu'on parle d'Assange, c'est vrai qu'on l'évoque pas souvent, mais Assange, c'est vraiment pas facile ce qui lui arrive depuis 2 ans, là.
Ah non. Voilà.
C'était déjà pas facile depuis 10 ans, mais depuis 2 ans, il est en prison. Il est en prison alors qu'il n'est condamné pour rien.
Voilà. Là, c'est quand on condamne humain. C'est Julian Assange, c'est le parfait exemple d'un humain qui a eu le choix entre confort personnel ou vérité, et il a choisi la vérité même s'il savait que pour la dire et la servir, il devrait jeter complètement son confort personnel. Il a vécu dans une ambassade, dans des conditions affreuses, pendant je sais pas combien de temps, des années, une dizaine d'années. Et maintenant, il y a des pays qui se tirent dessus pour savoir qui va l'assassiner en premier, tu vois. Donc, ouais. Yeah, super, super destin pour les...
Ah, ceci dit, le fait qu'il soit encore en vie... Et quand même un signe que voilà, il a son rôle à jouer. Oui, oui. Exactement.
Il y a quelqu'un là-haut qui le veut en vie.
Assange, c'est exactement le genre de personnage qui me fait penser aux personnes qui étaient évoquées par Jim Caviezel, tu sais.
Ouais.
Il disait après le Christ, mais pourquoi il y a d'autres, ils ont dû laisser leur vie, sacrifier énormément de choses, etc. Assange me fait penser à une de ces personnes.
Parce que là, on a mis une belle photo de lui, mais comme vous voyez sa gueule aujourd'hui, elle a changé à cause de tout ce qu'il a vécu. Hein. Donc, mais nous, à son honneur, on a mis cette image, on lui espère à ce qu'il revienne dans cet état-là le plus vite possible, ce qui est probable. Ils ne pourront pas marcher dans la rue. Une petite vidéo de Hillary Clinton dans une image vraiment genre dans quel monde on vit, quoi. Regardez, ça c'est Hillary Clinton avec sa robe de je sais pas quoi, avec un enfant derrière qui tient sa robe. Pour qui ils se prennent, ces gens-là, sans déconner? Ils se prennent tellement au sérieux. Et là, qu'est-ce que vous entendez? Des gens qui sont en train de huer criminel. Et de dire « Oh, criminel de guerre, criminel de guerre !»
T'as choisi ton image pour faire la pause.
Ouais.
Ouais. Et mais alors, moi, c'est quoi enfin, est-ce que vous savez ce que c'est le contexte là? Parce que j'ai vu cette vidéo il y a quelques jours, là, mais alors les gens habillés en toffe qui se font...
C'est en Angleterre, dans la présentation d'un événement dans une université ou une connerie comme ça.
Okay, ouais, d'accord.
C'est chez Voldemort, tu vois, où il... voilà. Elle est allée chez Voldemort. Donc, bientôt, ils ne pourront pas marcher dans la rue. Là, elle sort en mode hey! Et elle salue les gens. Les gens, ils sont en train de dire « Hey, connasse, criminel de guerre !» Donc, un petit témoignage sous serment. Un petit témoignage sous serment. Donc, un médecin de vol de l'armée américaine recommande au secrétaire d'État à la Défense que tous les pilotes et équipages injectés du vaccin soit consigné au sol en raison du risque d'arrêt cardiaque en plein vol lors du transport de personnel ou de munitions. 3 embolies pulmonaires en soins intensifs dans les 40 heures suivant l'injection. Et donc, vous avez ici le serment, le témoignage sous serment, pardon. Il est en entier et vous avez plus de détails sur la personne, etc. Et là, c'est ce qu'elle dit. Elle dit que c'est dangereux d'avoir des pilotes qui se sont fait piquer parce que ils peuvent faire un arrêt cardiaque en plein vol. Et maintenant, moi je garde en tête, il y a des pilotes de ligne quand même qui ont derrière des gens qui n'ont pas forcément de l'armement ou du personnel. Ils ont des civils derrière.
On se rappelle que ça, c'est une déclaration sous serment. Cette personne, si elle ment, peut aller en prison pour très 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 longtemps.
Oui, et puis c'est une médecin.
Qualifié, ouais, j'avais vu tout l'article, elle a 13 ans d'expérience dans l'armée, elle a un CV long comme ça, c'est quelqu'un de compétent et c'est quelqu'un qui prend des risques à s'exposer de la sorte. Ça a été repartagé par Mike Flynn, donc je pense que c'est une lettre qui va prendre pas mal d'ampleur dans les réseaux patriotes.
Qui a déjà pris, je pense, hein, parce que je l'ai vu tourner dans tous les médias patriotes, donc voilà. Alors, quand les complotistes ont raison, on fait vite l'actualité, on vous a dit, hein. Quand les complotistes ont raison, donc vous vous rappelez que on a appris il n'y a pas si longtemps que ça que le FBI avait des agents infiltrés dans les événements du 6 janvier. Et du coup, les complotistes qui disaient c'est un coup monté, tout d'un coup, le FBI qui se trouve impliqué, etc. Du coup, ils cherchaient une manière de cacher tout ça. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a un article qui est sorti dans le New York Times qui dit ouvertement que parmi ceux qui ont défilé au Capitole le 6 janvier, un informateur du FBI. Sauf que dans l'article, ils te disent qu'il y en avait d'autres. Et dans l'article, ils essayent de tourner cette chose-là pour te faire croire qu'en fait, les informateurs, ils étaient là pour surveiller que les choses dérapent pas. Ah ben, ils ont foiré leur coup, hein.
En plus, il me semble que dans l'article, ils mentionnent le fait qu'ils essaient de poser des questions un peu à tout le monde pour savoir s'il y avait vraiment un complot et une tentative de renverser tout le monde. Et puis, ils ont reçu comme réponse, non, il n'y a rien, on est juste là pour...
Donc,
exprimer notre mécontentement.
Résultat, conclusion de cet article, c'est que 1, il y avait des agents infiltrés dans la manifestation, et 2, il n'y a jamais eu un coup préparé par qui que ce soit pour aller faire tomber quoi que ce soit pour le 6 janvier. C'est la conclusion de l'article.
Et il y a un 3 aussi que je voulais mentionner, dont on n'a pas parlé ici, mais c'est le Breitbart qui a publié la lettre de quelqu'un qui a été arrêté dans le cadre du 6 janvier, qui raconte que ça fait 7 mois qu'il est emprisonné dans des conditions épouvantables. Il a passé des mois en isolement, alors que c'est considéré comme de la torture par les traités internationaux que les États-Unis ont signé. Et il pointe très justement du doigt qu'il y a eu quelque chose comme 200 ou 500 manifestations de Antifa et tout ça, et qu'il y a personne qui allait en prison, mais que lui, pour être rentré dans le Capitole, il a pris ça. Donc, ça vous donne un petit peu l'état de qu'est-ce qu'on veut faire des gens qui résistent en ce moment. En gros, vous êtes d'accord avec la rhétorique, vous pouvez faire ce que vous voulez. Par contre, si jamais vous êtes de l'autre côté, et si vous regardez les décodeurs, vous êtes probablement de l'autre côté. C'est ce qui peut vous pendronner si jamais vous décidez de pas réfléchir nécessairement ou d'agir de manière un petit peu, irréfléchie. Donc faites attention à vous, les gars. Et puis faisons N'est-ce attention pas. À nous aussi. Hein.
Alors, et voici la télé canadienne qui dit tout dans les 10 premières secondes concernant le virus. On va regarder ces 10 premières secondes.
La pandémie actuelle a-t-elle été causée par un accident de laboratoire? Jusqu'à récemment, ceux qui évoquaient cette hypothèse étaient vus comme des complotistes. Et pourtant, de plus en plus de scientifiques croient que c'est possible et montrent du doigt les expériences en laboratoire menées à Wuhan, en Chine.
Ok, alors premièrement, l'image d'Alexis, contrairement à ce que beaucoup pensent, n'a pas été ajoutée par le journal. Ça a été ajouté par celui qui a fait le montage et qui a ajouté la date dessus. Le journal n'aurait jamais fait la pub à Alexis. Premièrement. Deuxièmement, encore une fois, les complotistes avaient raison et sur combien d'autres points on va avoir encore raison. Troisièmement, dommage que Alexis l'a oublié ce passage-là. Il aurait pu en parler, enfin, il en a parlé dans son live, mais il ne l'a pas ajouté dans son filtre de perception hier pour voir qu'en fait, en réalité, les choses sont en train d'avancer. Tu vois, et donc contrairement à ce qu'il a donné comme impression hier, où c'est bon, maintenant il y en a marre, c'est maintenant ou jamais, blabli et blabla, en fait, les choses avancent. Et elles avancent dans la bonne direction, au point où les médias mainstream sont en train de parler des origines du virus. Et qu'est-ce qui se passera quand on apprendra que c'est définitif, le virus vient de là-bas, ce qui est quasiment le cas aujourd'hui. On va réagir différemment au virus. On le verra pas comme un accident de l'évolution ou de la nature. On le verra comme une guerre biologique et ça change beaucoup de choses.
J'ai l'impression qu'ils sont en train de diluer un peu cette information en la faisant fuiter petit à petit pour faire passer la pilule petit à petit aux gens. Et là, pendant que tu disais ça, je me suis fait la remarque. Avoir raison, ça rime avec prison. Et ce genre de choses. Bon, j'espère qu'on évitera ça. Je préfère dire que, on disait la vérité. C'était la vérité. Les choses qui se passaient là-bas, c'était vrai. Toutes les indications menaient à ça.
Et voilà. Deux choses à ajouter, c'est que on a parlé, c'était la semaine dernière, d'un article où on a un dissident chinois qui s'est échappé, qui lui a déjà franchi le pas et qui affirme que le virus a été libéré volontairement de là-bas. Donc ça, c'est encore quelque chose, on va voir arriver dans les médias. Mais et puis ça pose aussi une question philosophiquement hyper importante, c'est que qu'est-ce que c'est la légitimité de dire ouh, il y a de la fausse information, il faut absolument faire taire les gens. Alors que c'est justement parce que les gens ont lutté et ont continué à dire non, c'est pas faux, non, c'est vrai, non, c'est vrai, non, c'est vrai, que un an et demi après, on se retrouve à dire finalement, c'était vrai. Sans les complotistes au chapeau en alu.
La santé mentale de beaucoup de complotistes a été mise en jeu là pour qu'on puisse tenir bon sur nos positions et dire non, les gars, arrêtez vos conneries, le virus, il sort de Wuhan, dites ce que vous voulez, hein. Mais l'histoire du pangolin qui a fait je sais pas quoi avec la chauve-souris. Non, merci, ça va aller. Il y a tellement de choses, ne nous prenez pas pour des imbéciles à ce point-là, tu vois.
Ouais, mais c'est plus, on va dire, le côté remise en question de toute cette espèce de police de la pensée qui dit faut penser comme ci, faut pas penser comme ça, parce que c'est ça les preuves de la vérité. Quand vous vous plantez, les gars, je parle aux journalistes et au Facebook, qu'est-ce qui se passe quand vous vous plantez? C'est qui fait de la désinformation et qu'est-ce qui vous donne la légitimité de continuer à nous dire qu'on se plante sans preuve pour nous dire que dans un an, peut-être qu'on aura raison. Donc moi, c'est un petit peu cette réflexion-là que j'aimerais pousser.
Rudy, seulement il va pas avoir ce que tu penses, mais tu verras plus tard, le ministère de la vérité sera mis en place bientôt.
Je sais bien.
Avançons du mouvement globalement. Alors, je te laisse parler du 30 septembre, Rudy.
Cette information, vous savez, ça fait des mois qu'on vous parle du fait que, bizarrement, juste après la plus grande pandémie de l'humanité, on va avoir une éruption solaire qui va nous couper tout Internet. Et il y a plein de magazines, mais vraiment plein, qui nous en parlent tout le temps. Et nous, on met ça en parallèle avec cette idée qu'il va y avoir un blackout d'informations qui a été annoncé par Q dans différents posts et tout ça. Et on a cette nouvelle qui vient encore de tomber et qui nous explique qu'en plus de l'irruption solaire et en plus de tous les trucs bizarres qui arrivent maintenant et qui vont converger vers des grosses pannes d'Internet, on a cette nouvelle information qui nous dit que le 30 septembre 2021, donc c'est dans 2 jours, il y a un certificat, en gros, il y a un fichier qui a une date de validité qui va arriver à expiration ce jour-là et que ça aura pour conséquence qu'il y aura plein d'appareils, d'ordinateurs et de téléphones portables qui n'auront plus accès à Internet. Et c'est quand même un timing qui tombe vraiment de manière très, très, très étrange. Et donc voilà, c'est quelque chose dont je pense qu'il va vraiment dans le sens de ce qu'on vous annonce, c'est-à-dire la préparation des mentales des gens, comme quoi il va y avoir des coupures d'Internet.
Et le hasard, c'est que ça tombe en 30 septembre, le hasard. C'est forcément le 30 septembre, la veille du mois d'octobre, tu sais. Préparez-vous ce mois d'octobre. C'est il y a le cinéma là, ils essayent d'envoyer des messages dans le subconscient des gens qui sont vraiment pas cool du tout, vraiment pas cool du tout avec cette histoire du nouveau film là, le Venom. Bref, allez, une petite, on parlera peut-être tout à l'heure. Je l'ai pas mis dans l'article parce que ils sont malades.
Donc pour continuer dans la rhétorique, je prends les trois articles qui vont un petit peu ensemble dans la rhétorique de coupure d'internet qui va se lier, si jamais vous écoutez les décodeurs, vous savez que ça fait des mois et des mois qu'on en parle, avec probablement des pénuries dans les magasins des pénuries dans les magasins. Et qu'est-ce qu'on voit arriver comme ça? On voit des pénuries qui arrivent au Royaume-Uni, pénurie d'essence pour le moment, et le gouvernement qui appelle l'armée à se tenir prête pour gérer ces problèmes d'approvisionnement d'essence. J'ai pas creusé la question plus que ça pour savoir vraiment qu'est-ce que c'est la cause principale et fondamentale de ça, mais en tout cas ça pourrait bien être des rumeurs. Ah, il va y avoir une pénurie, donc il faut absolument qu'on aille
À cause des grèves et à cause des trucs comme ça, non? J'ai lu l'article, si je dis pas de bêtises, et il y a une série de grèves ou de je sais pas quoi là qui
hop là. C'est exactement là où je voulais en venir, c'est-à-dire regarde, c'était marqué dans les premiers.
Oui. Ouais. Le Royaume-Uni a demandé lundi à son armée de se tenir prête à venir en aide dans la crise du carburant en cours dans le pays après un week-end où les Britanniques en caisse se sont rués dans les stations-service en laissant beaucoup à sec. Un nombre limité de chauffeurs de camions, citernes, militaires doivent être prêts à intervenir et déployer si nécessaire pour stabiliser l'approvisionnement en carburant, a déclaré le ministre de l'Énergie. Le secrétaire de transport a pour sa part déclaré, constaté que les achats sous le coup de la panique commençaient à être plus modérés avec divers carburants désormais disponibles. Mais si le réseau actuel de camions de pétrole est capable de livrer de carburant, prendra sous pression du gouvernement, Boris Johnson s'est résolu samedi à amender sa politique d'immigration.
Regarde, c'est en dessous, en cause, les pénuries qui touchent aussi le secteur agroalimentaire, un peu plus bas, entraînées par un manque de 100 000 chauffeurs routiers depuis le Brexit. Alors faut savoir que si jamais tu lis un petit peu les médias qui concernent le Royaume-Uni, c'est tout la faute du Brexit. Tout ce qui se passe, c'est la faute du Brexit. On vient de passer 2 ans de lockdown et tout ça, mais c'est pas grave, c'est la faute du Brexit et tout ça. Bon, bref, c'est complètement ridicule. Mais ceci dit, cet article, d'ailleurs, on peut peut-être changer parce que Nita à côté là, avec son soutien-gorge, ça fait vraiment pas.
Non, mais je lisais le titre. Regarde, tu lis sudinfo.be, tu lis une information concernant le monde et à côté, tu as genre Nita, 45 ans, affirme avoir régulièrement des trios avec Dieu. Je veux dire, c'est l'hérésie.
C'est sale. On parle pas de ça.
Non, mais c'est con. Vivement le changement.
Ouais.
Next.
Donc, on voit la même chose qui se passe en Italie. Donc, en gros, des gens sont pas contents, protestent contre le pass sanitaire. On se retrouve avec des bouchons qui provoquent une pénurie. La question à se poser, c'est dans l'intérêt de qui ça? C'est dans l'intérêt de qui? Est-ce que c'est dans l'intérêt des gens qui luttent? Effectivement, on peut se poser la question. Ou est-ce que c'est dans l'intérêt du gouvernement qui a très, très intérêt à montrer aux gens qui sont vaccinés, regardez, les non-vaccinés, ils font la grève. Donc, en plus de vous rendre malade, vous n'avez pas de pétrole. Et donc, toutes les galères qui s'ensuivent, vous ne pouvez pas vous déplacer. Ça fait des bouchons. Il y a des problèmes d'approvisionnement. Tout ça, c'est la faute des vaccinés. Et ça revient à ce qu'on avait dit, la révolution des non-vaccinés ou des vaccinés.
T'as inversé. C'est à cause des non-vaccinés, donc la révolution des vaccinés. Les amis, vous vous rappelez, on vous a parlé du Joker dans un de nos lives d'avant, là. Si on regarde dans les lives, hop, information, live. C'était il y a pas si longtemps comme ça, on va voir la tranche de Joker. Voilà, le live du 20 juillet. Et on vous avait parlé dans ce live-là, on vous avait dit que à travers le cinéma, ils essayent d'envoyer des messages forts dans le subconscient global. À l'époque de Joker, ils envoyaient dans le subconscient global des messages de décomposition du système actuel. Une déstructuration, une destruction. D'accord? Une forme d'illégalité, de chacun fait ce qu'il veut ou c'est la colère qui prend le dessus. Vous voulez voir maintenant quel est le message qu'on voit un petit peu Hollywood dans le subconscient global? Voilà. Le dernier film qui sort cet automne et qui s'appelle Venom, laissez le carnage commencer. Ce message-là, il n'est pas anodin. Venom, c'est un poison. Ça veut dire poison et c'est les gens vont dire oui, mais c'est parce que Carnage, c'est le nom du méchant dans l'histoire. Le contexte est créé pour justifier l'existence de ces phrases qui vont venir bombarder le conscience globale. Et ce film, qu'est-ce qu'il te dit? Que cet automne, ça sera le carnage.
C'est qui, la voix qui dit ça, la voix off, et dit « This down, it will be carnage ». Je sais pas, un truc comme ça.
C'est ça. Alors...
Puisque le chaos est déjà là, avec comme on a vu dans...
Non, mais en fait, c'est ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est imaginez maintenant le contexte de merde dans lequel nous sommes et pourquoi on vous dit manifestation et grève et tout ça, c'est peut-être pas la meilleure idée. C'est parce que d'un côté, vous avez des gens que psychologiquement, ils sont tombés à genoux et ils ont pris la piqûre, ok, en pensant qu'avec la piqûre, tout va se libérer. Et maintenant, ils entendent dans les médias que s'ils n'arrivent pas encore à être libérés, c'est à cause des personnes qui n'acceptent pas la piqûre. Pas seulement ça, mais ces personnes qui n'acceptent pas la piqûre, ils font des grèves et des manifestations qui seront à l'origine du fait que leur frigo sera vide. Est-ce que vous imaginez comment ils sont en train de diviser l'humanité en deux et de les tourner les uns contre les autres? Est-ce que vous mettez-vous à la place d'un vacciné avec son cerveau, en tout cas ce qu'il en reste, et confronter la situation qu'on attend? Le vacciné, il va être là, il dit « Ah non, mais ça va, il y en a marre des non-vaccinés. » Et c'est le vacciné, il va demander à ce que des mesures radicales soient prises contre les non-vaccinés. Et c'est là où on risque de voir le carnage. Soyons très attentifs au contexte actuel. Soyons intelligents, ne jouons pas dans ce jeu-là. On verra des gens se tirer les uns sur les autres. Ne jouons pas dans ce jeu-là. Prenez notre main et venez du côté de la paix. On n'est pas en guerre avec l'ancien monde. On le laisse couler, il est en train de couler de lui-même. On n'est pas en guerre contre. On est des observateurs externes, vous allez voir plus tard.
Ouais, c'est exactement cette logique, ça me fait penser. C'est la logique de comment faire passer une loi qu'on ne peut pas faire passer d'habitude ou changer globalement la loi. Sans forcément créer des émeutes massives, etc. On crée un problème, on le laisse dégénérer, on attend que les gens ils demandent que ce problème soit résolu. Et on donne notre solution au problème qu'on a créé nous-mêmes. Voilà.
Et qu'on a problème, laissé... réaction, solution.
Exactement.
Ça s'appelle la stratégie du choc et on en parle aussi un peu plus tard. Alors, next. Suivez les démissions. Ouais, vas-y.
Ouais, bah, vite fait, en gros, on vous a mis un drop de queue qui nous... Un, parmi multiples, qui nous dit de suivre les démissions. Dans les choses... qui ont été annoncés au début des drops de Q pour légitimer le fait que toute cette histoire c'était pas du flan et qu'il y avait peut-être quelque chose de solide et de sérieux derrière. Nous, on a été convaincus chez les décodeurs, en tout cas. Ils nous proposent de suivre les démissions des très hautes personnalités, des personnalités politiques, des personnalités dans l'industrie, des personnalités, voilà, ce genre de profil-là. Bon, et à plusieurs reprises, il le fait. Et donc là, qu'est-ce qu'on a vu hier ou avant-hier? Bon, en tout cas, depuis le début de la semaine, on a vu qu'il y a une personne, Eric Rosengren, qui est président de la Fed de Boston, qui annonce son départ anticipé en retraite en invoquant une maladie du rein. Alors, on se dit, bon, ok, d'accord, et il est malade, et puis il est à la Fed, donc c'est peut-être un hasard. Par contre, le même jour, on a, si tu veux bien descendre un petit peu, on a Robert Kaplan, lui, il est président de la Fed de Dallas et il démissionne le même jour après une controverse sur des opérations boursières. Donc, petit prétexte pourri. Et on a deux personnes de très haut niveau qui travaillent dans la Réserve fédérale. Réserve fédérale dont on sait qu'elle est dans le collimateur des patriotes de Q, du plan. On en parle à plusieurs reprises, on en a même parlé au dernier live. Léo vous a fait toute une section sur l'or qui détruira la Fed. On sait que la Fed est un des pions, une des pièces, pas un pion, une pièce majeure sur l'échiquier, sur l'échiquier politico-économique. Et là, on se rend compte qu'il y a deux personnalités qui démissionnent le même jour. Alors, c'est peut-être une très, très grosse coïncidence, mais dans ces cas-là, c'est très, très, très gros. Et voilà, nous, on interprète ça comme étant un des mouvements qui se passe en sous-main et qui confirme qu'effectivement, le plan est en train de se dérouler comme il se doit. Donc, voilà.
Ça avance. Il y a déjà, en fait, là, c'est, tu sais, c'est des micro-vagues de démissions parce qu'on a eu une vague massive de démissions au début 2020 ou je sais plus quand c'était. Mais genre, c'était un truc de ouf. Et tous les CEO, tous les présidents des entreprises, des grandes entreprises, ils se sont barrés. Là, c'est des micro-vagues qui reviennent de temps en temps. Alors, les amis, le ministère de la vérité est là. Le ministère de la vérité, sans déconner, regardez le film 1984. Le ministère de, on est en plein dedans et le ministère de la vérité est là, lancé par personne d'autre que Monsieur, je casse pas des œufs avec ma tête, hein, ah oui. Sans jeu de mots. Pourquoi et comment Emmanuel Macron a décidé de s'attaquer au complotisme? Ça nous concerne directement parce que. Concrètement, là, c'est l'annonce de guerre. Tu sais, c'est la déclaration de guerre officielle contre les complotistes. OK? Donc, inquiet de constater la montée du conspirationnisme et son corollaire, la perte de rationalité, le président lance une commission chargée de lutter contre ces menaces. Vous savez qui est dedans? Dans son truc, là? Déjà, ça s'appelle Brunemann ou je sais pas quoi, la commission...
Brunemann, ouais.
Ouais. Commission Brunemann, ça fait penser un peu à la commission Himmler, tu sais, genre un truc comme ça. Non, mais sans déconner, c'est vrai, ça.
Mais le mec, j'ai vu il y a un paquet d'années, là, son documentaire qui s'appelle l'opium des crédules ou un truc comme ça, ou bref, quelque chose comme ça. Il en parle à la fin de l'article, quoi. Qui est un documentaire qui dit rien sur le complotisme. C'est un documentaire pour les gens qui regardent la télé et par des gens qui regardent la télé. Vous avez aucune question pertinente qui est posée. Vous avez aucune réponse intelligente qui est donnée. Voilà. La démocratie des crédules, c'est comme ça qu'il s'appelle le torchon en question.
Ouais. Et dedans, ils ont aussi Rudi Reichstadt, hein, qui parle de l'opium des imbéciles. C'est la dream team des connards, en fait. Il les a pris ensemble, il les a mis ensemble, il a formé le ministère de la vérité. Il manque quelques merguez dedans. Oui, pardon.
Bah, il y aura des merguez aussi dedans parce que eux, c'est la team Rocket, en fait, tous ensemble.
Ouais.
Voilà. Moi, ce que je lis, c'est que la dernière en date publiée par IFOP, ça doit être le dernier sondage ou dernière enquête, au mois de juin, révèle que 67% des Français doutent de la véracité de l'information qu'ils reçoivent de la part d'un média reconnu. Ouais. C'est encore trop peu, en vérité. Normalement, dans une société saine d'esprit, il y aurait 95% de gens, 99% de gens, adultes, je parle, qui douteraient des informations que vous donnez.
Non, mais déjà 67, c'est une grande victoire. Est-ce que tu te rends compte? Là, ils sont en train d'avouer leur échec, en fait.
Concrètement, je veux dire, si c'est 80, ils ont mis 67, histoire de garder un peu la face. On ne peut pas s'attendre à ce que ce soit les vrais chiffres.
Concrètement, dans cet article, ils acceptent le fait qu'ils ont perdu la guerre de l'information. Ils disent, OK, bah, du coup, maintenant, il faut qu'on lance les missiles nucléaires de l'information pour faire obstruction en face. Et du coup, préparez-vous à ce que des émissions comme les décodeurs deviennent carrément illégales. Genre, le pays des droits de l'homme, la liberté d'expression sera équivalente à du papier toilette pour les fesses de Monsieur Macron. Voilà. C'est le futur qui nous attend. Ils vont essayer, hein, mais ce qu'ils n'ont pas compris encore, c'est que eux, ils peuvent faire leur plan. Mais nous, on fait pas de plan. Nous, on fait partie d'un plan qui vient d'au-dessus. Et ça, je leur souhaite bon courage, hein, pour faire face à lui.
Ce que je trouve, j'aime bien, c'est qu'il n'y a aucune, enfin, j'aime bien, évidemment qu'il n'y a aucune remise en question. Mais je veux dire, il y a 70% des gens qui croient plus à la télé, donc c'est la faute des gens, c'est pas la faute de la télé. Tu vois, c'est comme, il y a des gens qui lancent des œufs sur le président, c'est un scandale, on va tuer les poules, c'est comme ça qu'on va résoudre le problème.
Il y a 67% des gens et doutent de ce qui est dit à la télé. Ouais, bah, vous savez ce qu'on devrait faire? On devrait prendre des mesures contre ces personnes-là, les envoyer dans les maisons. On devrait les rééduquer. Voilà.
Ouais.
Comme ça, ils doutent plus de rien. Ils contestent plus rien, plus grand chose.
Donc, comme disait quelqu'un très intelligemment, s'il y a beaucoup de pays qui ont construit des camps Covid, c'est certainement parce qu'ils comptent s'en servir un jour ou l'autre. Hein. Soyons lucides.
Petite info, le gars qui a envoyé l'œuf à Macron, là, il est dans un hôpital psychiatrique. Donc ça, là, c'est officiellement, les méthodes dictatoriales sont en train d'être appliquées en France. On avait vu ça une première fois avec le professeur Fortillon, ok, qui n'a pas arrangé la situation avec ses déclarations et beaucoup de choses qu'il a dit et qu'il a fait pendant, avant et après aussi. Mais là, dans ce cas précis, c'est un jeune de 19 ans. Ils l'ont considéré comme non apte à vivre dans cette société ou je sais pas quoi. Hop, hôpital psychiatrique, de force. Le gars, il va bien. Putain, chaque personne qui va bien aujourd'hui en France, il a envie d'envoyer un œuf à Macron. Alors oui, certes, certains vont pas, enfin la majorité va pas le faire parce qu'il y a ce qu'on appelle le respect d'eux. Mais est-ce que Macron, est-ce qu'il respecte qui que ce soit?
Mais en plus, quand même, je veux dire, c'est super... vas-y Nico, excuse-moi.
C'est tout dépend du contexte, parce que une personne normalement constituée va dire ouais non je vais pas le faire, ça va me faire beaucoup de problèmes, etc. Et si ça, mais tout dépend du contexte dans lequel tu te trouves. On se trouve dans un contexte où le pays il s'approche de sa ruine, où le chômage augmente, où il y a des personnes qui se sont fait virer parce qu'ils se sont pas fait injecter, d'accord.
Ouais, et puis t'as ce gamin de 19 ans qui voit ce gamin de 19 ans qui se dit mais bordel de merde quoi, c'est je viens dans le monde maintenant que je vais passer dans ma vie active regarder la gueule du monde telle que vous l'avez fait. Si ça se trouve c'est le nouveau Greta Thunberg. Pourquoi ils prennent pas la Thunberg qui dit au leader du monde comment osez-vous, pourquoi ils la prennent pas elle à l'enfermer dans un hôpital psychiatrique? Elle est beaucoup plus flippante qu'un gars qui jette des œufs, hein, et qui court après. Mais elle est beaucoup plus flippante.
Enfin, ce que je veux dire, c'est que moi, ce type-là, on s'attendait avec un geste comme ça qu'il finisse en prison, alors même s'il a des bonnes raisons de le faire et tout ça. Moi, c'est le côté hôpital psychiatrique qui me gêne. Parce que le type qui l'a mis une gifle à la Macron, il a pris 3 mois de prison, il est sorti. Tu vois, je veux dire, il a pris une grosse peine pour avoir mis une petite gifle, il est sorti. D'ailleurs, il a dit, j'assume complètement ce que j'ai fait. Mais là, on n'est plus dans un truc du genre, t'as fait une infraction à la loi, donc tu es puni. Là, c'est tu es un dissident de la pensée, on veut surtout pas que tu puisses donner l'exemple. Et donc, voilà, on te met dans un hôpital psychiatrique. Mais combien de temps? C'est quoi la durée? On va peut-être le garder 10 ans si jamais on considère qu'il n'est pas apte à ressortir et qu'il peut être un danger pour la société ou pour lui-même. C'est cet aspect-là qui me choque profondément. Oui,
on avait fait un très bon sujet, un sujet là-dessus dans un live, je m'en rappelle. On avait fait tout un sujet sur ça, sur le fait du danger justement des hôpitaux psychiatriques et de la psychiatrisation globalement de toute la société et de la vie en société.
On va l'aborder ça au prochain live. On va peut-être faire un petit rappel sur ça. Bref, pour histoire de pas passer trop de temps à parler des œufs pourris et des gens pourris comme ça, on va passer à l'audit. Ok, donc bon, pour beaucoup d'entre vous, ce n'est pas un secret. Hier, Alexis, à mon point de vue et selon mon analyse, il était très fatigué. Il avait des attentes. Il a été déçu, il avait peut-être de la pression autour de lui. Il a fait un live dans des conditions émotionnelles où c'était pas forcément la meilleure idée. Donnez-lui ce droit-là, c'est un humain, comme tout le monde. Ok, il peut le faire. Nous, ça nous est déjà arrivé aussi de faire des lives quand on est en colère et de donner l'impression que c'est la fin du monde. Ça arrive à tout le monde, ok? Personne n'est parfait. On est des humains aussi. Voilà. Cela dit, on partage pas son point de vue et son analyse, en fait. OK? On partage pas du tout son, parce que nous, on n'avait pas du tout les mêmes attentes. C'est-à-dire qu'Alexis, il parle des sources comme la War Room, là. Comment il s'appelle?
Steve Bannon,
Lindell et tous ces gens-là. Nous, on ne lit pas, on ne les regarde pas. Nous, les sources qu'on a, ce sont vraiment très, très peu de sources éclectiques choisies vraiment à travers un an et demi de vérification constante. Ces sources-là, en général, enfin, c'est pas en général, c'est globalement, elles se sont jamais trompées ou quand elles l'ont fait, elles ont demandé pardon, elles ont expliqué les raisons pour lesquelles. Et nous aussi, on s'était trompés dans le même sujet. Donc, c'est Praying Medic X22 Report, le général Flynn. On va dire que c'est le noyau dur de nos sources d'informations et après, on fait nos propres recherches de vérification et tout ça derrière. Donc,
et j'aimerais rajouter aussi que dans la guerre de l'information, en fait, il y a des acteurs passifs, actifs intérieurs et extérieurs à la guerre de l'information. Mm-hmm. En ce qui concerne War Room Audit, Steve Bannon et les autres, ce sont des acteurs actifs de la guerre d'information. Quelle est leur position exacte? Je ne sais pas, je suis pas dans leur esprit.
C'est d'agiter le chiffon rouge pour l'état profond, en fait, pour leur donner des informations et les envoyer dans telle ou telle direction, en fait. Donc voilà, forcément, parfois, il y a de la désinformation. On avait déjà parlé de ça le 20 janvier, où on s'était trompé aussi. On a dit, parfois, la désinformation vient des patriotes qui veulent envoyer l'état profond dans la mauvaise direction. Sauf que là, c'était pas le cas. C'était même pas le cas, en fait. Parce qu'au final, ce qui sort de cet audit, l'audit n'a jamais été fait pour dire que Trump a gagné et c'est bon, on change l'élection et machin. C'était pour savoir si l'élection a été fait dans les règles d'une élection d'un pays démocratique. Parce que si ce n'est pas le cas, il faut décertifier les élections. Ouais. Donc, c'est les gens qui font l'audit doivent, par définition, être neutres. Ils ne sont pas pro-Trump, ni contre Biden. Donc, avec cet esprit-là et avec cette analyse-là, l'audit a été fait et les résultats ont été donnés. Et donc, Rudy, si tu veux...
Ouais, il y a plusieurs choses là. C'était toi, Léo, qui avait traduit un certain nombre d'avis sur qu'est-ce qui s'était passé. Tu l'avais publié samedi passé. Donc voilà cet article-là. Je vous ai pris quelques passages qui ont retenu mon attention de cet article-là que je vous ai sorti là-haut. Mm-hmm. Donc alors déjà un bilan. On va y aller vite. Il y a quelqu'un qui fait un bilan sur les choses qu'on a appris au cours de cet audit et qui sont maintenant confirmées. Il y a des fichiers qui ont été supprimés et purgés, donc notamment par le board de Maricopa, donc les gens responsables de l'élection. Un truc intéressant, et là pour le coup je vais un petit peu dans le détail parce que là, c'est un domaine que je connais bien, de nombreux fichiers .exe et .dll ont été supprimés. Il faut savoir que les fichiers .exe et .dll, c'est pas des fichiers qui contiennent de l'information, c'est des fichiers qui contiennent des données d'exécution. C'est des programmes en fait, si vous voulez, ou des morceaux de programmes. Et c'est-à-dire que ces fichiers ont une action sur l'ordinateur sur lequel ils sont exécutés. Et donc ces fichiers-là ont été donc c'est pas de l'information qui a été supprimée, c'est carrément des modes de fonctionnement qui ont été supprimés. Et si jamais tu supprimes des modes de fonctionnement, c'est peut-être que ces modes de fonctionnement n'étaient pas supposés se trouver là. Par exemple, accéder à Internet, par exemple, comment tu traites les données. Je ne sais pas ce qu'il y avait dans ces fichiers exe, mais en tout cas, ça avait retenu mon attention. Donc, les mots de passe étaient gérés n'importe comment, les bulletins en double étaient gérés n'importe comment, la chain of custody, donc c'est-à-dire la chaîne documentaire qui permet de justifier que ce vote-là, c'est bien ce vote-là qui s'est retrouvé dans le décompte final, ça a été géré n'importe comment. Enveloppe sans signature, etc., gérée n'importe comment. Les machines étaient connectées à Internet alors qu'elles ont d'une pas le droit de l'être et que il y a plein de gens, que ce soit des officiels politiques ou des gens de chez Dominion, qui ont juré sous serment que c'était pas le cas. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a, en fait, l'audit n'est pas terminé. Et c'est bien ça dont il faut se rendre compte. Ils ont sorti un certain nombre de résultats, de découvertes, mais il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas terminées. D'ailleurs, dans la partie 3 de l'audit, on attire notre attention sur le fait que ce qu'on appelle les kinematic artifacts, alors ça, c'est un type dont on vous a déjà parlé qui s'appelle Jovan Pulitzer, qui est supposé s'occuper de ça, tout ça, ça n'a pas été traité. Et on sait que ça concerne à peu près, alors là, je vous dis ça de mémoire, 200 000 bulletins de vote. Alors, c'est quoi ces histoires? C'est tu mets le bulletin de vote dans la machine, le bulletin de vote dit « Ah, la machine te dit, je n'arrive pas à lire le bulletin de vote. » Et là, il y a un processus qu'on appelle « adjudication » en anglais, qui fait qu'il y a quelqu'un qui arrive, qui prend le bulletin de vote, qui lit le bulletin de vote et il dit « Ah, en fait, le mec, il a voté pour Trump ou il a voté pour Biden. Ouais. » Problème, il y a énormément de bulletins, beaucoup, 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 beaucoup trop de bulletins qui sont passés par ce processus-là. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que « Hey, il a voté pour Trump. » Bon, non, il voulait pas voter pour Trump, en fait. Il voulait voter pour Biden. Et tac, tu cliques sur Biden. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bulletins. Là, je crois qu'on parle de 200 000 rien que pour ça. Mais ce chiffre-là, le prenez pas pour argent comptant parce que j'ai rien pour le justifier là tout de suite. Donc, tout ça, c'est pas sorti. Et il y a un certain nombre d'autres sujets qui ne sont pas sortis. Donc, on s'attend à avoir d'autres découvertes sur l'audit de Maricopa. D'ailleurs, Trump l'a dit lui-même parce qu'il a fait un meeting en Géorgie le lendemain de l'audit ou quoi. Il a dit lui-même que il y a des conclusions qui sortent jour après jour et qu'on s'attend à avoir de nouvelles conclusions qui sortent de l'audit de Maricopa. Et on n'oublie pas non plus que le Texas a décidé de lancer un audit, que Wisconsin, Pennsylvanie, il y a plein de nouveaux audits qui vont arriver. Et si on confirme que on a les mêmes patterns dans tous les États, on pourra plus dire que c'est juste des gens qui ont mal fait leur travail, mais que c'est vraiment quelque chose de coordonné. Alors, pour en revenir à Alexis, moi aussi, je suis un peu déçu. J'aimerais bien que ça finisse et qu'on puisse dire « Ah, super, vous avez dit, on avait gagné tout ça. Maintenant, on peut parler des choses sérieuses. » C'est pas le cas. C'est pas le cas.
Alors, moi, j'aimerais ajouter que il faut vraiment. C'est pour ça qu'on fait le live ce soir, pour comprendre le contexte dans lequel nous sommes. C'est un changement du monde, mais c'est un monde qui s'est construit sur des siècles et des siècles. Il va pas changer comme ça. Il faut prendre en compte l'opinion publique. Est-ce que, regardez autour de vous. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a plus de gens vaccinés ou non vaccinés? Piqués ou non piqués? Est-ce qu'il y a plus de gens qui portent le masque ou des gens qui portent pas le masque? Qui est la majorité encore? Parce qu'avoir des doutes sur les informations que reçoit est une chose, mais après, en pratique, bah, il y a beaucoup plus de gens qui baissent la tête devant l'autorité étatique que des gens réveillés, en fait. Il y en a beaucoup plus. Donc, d'un point de vue opinion publique, ce n'est pas encore le moment. Attendons la deuxième partie. Mais et donc, ce que je voulais dire, c'est que peut-on attendre d'autre alors qu'il a fallu près de 6 mois pour que l'audit commence, que Maricopa a pris 10 jours pour compter les votes. C'est un audit, pas un recomptage. Donc, oui, parce que c'est ce qu'il dit Alexis. En fait, finalement, il y a très peu de voix de différence. Donc, oui, si c'était un recompte des votes frauduleux, alors Biden en avait plus. Mais le truc, c'est ce qu'il dit, c'est qu'il y a beaucoup de votes, de voix, qui sont pas faits d'une manière régulière et de toute manière, les processus démocratiques des élections n'ont pas été respectés.
Oui, je suis d'accord. Ce qui a été démontré, c'est qu'il y a eu des agissements frauduleux et criminels de la part de ceux qui s'occupaient de l'élection. Comment ils s'appellent ces gens-là? Le comité électoral?
Ouais, le board de superviseur.
Voilà, le board de supervision de l'élection. Ils ont eu des agissements frauduleux, voire criminels, aussi bien que Dominion Voting System. Mm-hmm. À Arizona. Et ça a été démontré par cet audit déjà. Donc ça aura forcément de l'influence sur tout le reste.
Donc ça veut dire que...
Il était lié à Dominion.
Voilà, les personnes liées à Dominion et qui ont participé dans cette élection et qui ont joué un certain rôle, là, ils sont terrifiés. Dominion est en grosse, grosse difficulté par rapport à tout ça. Et les politiciens qui ont contribué dans tous ces complots pour détourner les élections, ils sont en train de flipper. Donc, on a la déclaration du général Flynn qui dit, après avoir lu l'audit judiciaire complet de l'Arizona, lu l'audit de vérification des votes, écouté l'audition du Sénat de l'Arizona, il n'y a zéro doute que l'élection du 3 novembre en Arizona doit être décertifiée et que les électeurs de l'Arizona pour la présidence des États-Unis doivent être rappelés et attribués au président Trump. Donc, on a... Oui?
Juste, je voulais te lire un commentaire qui va te faire plaisir, Léo. C'est le commentaire de Peggy qui nous dit « Tu as raison, Léo, c'est ça qui me fatigue, on n'en boit jamais la fin, alors je me rappelle que notre foi sera testée. » Je pense que Peggy a compris exactement ce que le message des décodeurs. Donc, bravo, Peggy. Merci.
Eh ben, bravo, Peggy. Maintenant, on n'a plus de seconde partie du live. Ça va?
C'est vrai qu'Andely, elle nous a résumé 1 heure de live, quand même.
Oh, on a un petit peu plus de choses, quand même. Mais merci, Peggy. Ça fait plaisir. Donc, pour répondre à la version médiatique de ce qui se dit sur les élections aux États-Unis, ah non, mais c'est pas possible. Ah non, mais les machines et les trucs et les cela. On a cette vidéo de Hillary Clinton qui date de 2018. Donc, tais-toi, toi. Donc, pendant qu'elle le dit, moi, je vais vous dire directement en français ce qu'elle dit. Certains experts en technologie de la Silicon Valley que j'ai rencontrés disent que, peut-être que la prochaine fois, ils perturberont l'élection elle-même, arrêteront les serveurs où sont envoyés les résultats, interféreront avec le fonctionnement des machines à voter parce qu'un trop grand nombre d'entre elles sont encore reliées à Internet. Donc, nous sommes encore très, très vulnérables. C'est ce qu'elle disait. La dame qui dit maintenant, non, il n'y a pas ça. Les élections, c'est parfait. Il n'y a rien qui s'est passé. Rien. En 2018, elle disait ça, que ça risque d'arriver pour les élections de 2020. Parce qu'elle considérait qu'il y a eu fraude quand Donald Trump a gagné.
Est-ce que ce n'était pas par rapport à midterm election de 2018? Ça aussi, parce que c'est les démocrates qui ont été les premiers à gueuler, à dire « Ouais, il y a un truc qui va pas avec les machines à voter, etc. » Et après, ça s'est retourné contre eux, justement. Bah, ça se retourne là, en ce moment, contre eux.
J'en sais rien, bah, mais dans tous les cas, moi, j'ai Hillary Clinton qui est en train de dire qu'il y a des machines qui ne devraient pas être connectées sur Internet qui le sont, et qu'un piratage de tout ça, c'est possible.
Est-ce qu'on comprend la même chose? Parce que moi, ce que je comprends quand elle dit ça, c'est que, en gros, ils vont appeler leurs copains de chez Big Tech pour truquer l'élection. C'est ça qu'on est en train de dire là ou pas?
Non, ouais, elle est pas en train, elle est en train de dénoncer. En fait, je pense que ce qu'elle est en train de préparer là, c'est que elle est en train de prévoir une victoire des républicains ou de Donald Trump dans les élections d'après. Mm-hmm. Et elle est en train de préparer la justification. C'est-à-dire que si jamais c'est Trump qui gagnait les élections, là, c'est l'État profond qui serait en train de faire des audits partout, tu vois.
Mm-hmm. Ok, d'accord, ouais.
Pour dire l'élection était frauduleuse, l'élection était frauduleuse. C'est évident, c'est clair. C'est ce qu'elle a fait pendant 4 ans, en fait. Depuis 2016, elle n'a jamais accepté sa défaite. Mm-hmm. Donc, bah, c'est ce que l'État profond ferait. Donc maintenant, c'est Trump qui le fait. Il fait exactement la même chose qu'eux ont fait pendant 4 ans, qu'elle a fait. Elle n'a pas arrêté.
L'année du boomerang, voilà. 2021. Et d'ailleurs, oui, bah, il y a cet article aussi qui est très intéressant, qu'on vous avait traduit. Donc ça, c'est un article qu'on vous a fait traduire qui vient du Time Magazine. Donc le Time Magazine, c'est là en termes de crédibilité dans les médias mainstream et chez les pilules bleues. Et qu'est-ce qu'on nous apprend dans ce magazine? Qu'il y a eu un complot, c'est même le mot qu'ils emploient, il y a eu un complot qui a été fait par des gens de l'industrie, des gens de Big Tech et des gens de la politique pour... Eux, ils disent ça, fortifier l'élection. Mais fortifier l'élection, c'est une belle manière de dire que, en fait, ils ont truqué l'élection, en fait.
Attends. Du moins l'influencer, ça, c'est sûr.
Car Trump et ses alliés menaient leur propre campagne pour gâcher l'élection. Gâcher l'élection, ça veut dire gagner l'élection. C'est donc, leur position est claire.
C'est une coquille.
Le président a passé des mois à insister sur le fait que les bulletins de vote par correspondance étaient un complot démocrate.
Cherche le mot fortifier dans l'article. Je pense que c'était ça la phrase qui nous intéresse.
Fortifier.
Ouais.
Fortifier. Je préfère lire le passage concernant. Non.
Voilà. C'est pourquoi les partisans que l'histoire secrète de l'élection de 2020 soit racontée, même si cela ressemble à un rêve de fièvre paranoïaque. Une cabale bien financée de personnes puissantes dans tous les secteurs et de toutes les idéologies, travaillant ensemble en coulisses pour influencer les perceptions, changer les règles et les lois, orienter la couverture médiatique et contrôler le flux d'informations. Ils ne truquaient pas l'élection, ils la fortifiaient. Et ils estiment que le public doit comprendre la fragilité du système pour assurer la... Bon, ça, à la fin, c'est le bullshit pour dire « il faut que vous votiez pour qui on vous dit, comme ça, sinon c'est plus de la démocratie ». Mais là, on nous parle bien d'une cabale bien financée de personnes puissantes de tous les secteurs qui influencent l'élection pour en déterminer le résultat.
Ça existe ce genre de choses. Moi, je croyais que c'est les théories de complotistes et complots qui disent ça. Manu, ton ministère de vérité, vite, cours.
Ça veut dire quoi, influencer les perceptions?
Manipuler.
Ça veut dire faire de la désinformation, de la propagande. C'est ça, manipuler. Manipuler,
en fait. Le synonyme, c'est manipuler.
Et c'est
manipuler.
Pas le libre penseur ou. Le libre penseur, j'ai rien contre lui. Il fait d'ailleurs du très bon travail. Mais c'est pas. Tamponné conspirationniste, c'était pas les décodeurs, c'est pas Alexis qui dit ça, c'est le Time Magazine. Et en plus, ils sont fiers, ils te font un article, à truquer les élections. Bref, ok. Je prends Brownville vite, on passe là-dessus. En gros, en Arizona, on a Mark Brownville qui est attorney général, donc procureur général, c'est le chef de la justice de l'État d'Arizona, qui a dit qu'il allait prendre toutes les mesures nécessaires pour prendre les actions de ce qui a été prouvé par la loi. J'ai plus la phrase exacte, on l'avait marqué un peu plus haut. En gros, il va faire ce qu'il a à faire.
C'est là,
en
tant que,
toutes les mesures nécessaires en réponse aux résultats de l'examen par le Sénat. Les Arizoniens méritent que leur vote soit compté avec exactitude et soit protégé. Donc ça, c'est Brown Beach. En gros, c'est lui qui maintenant va faire les actions en justice contre le board de Maricopa, lesquels on a vu qu'ils avaient fait quand même
impliqué
pas mal.
À la... Ouais, voilà.
Voilà. Alors, soit il va les prendre, ces mesures, soit il va pas les prendre. Parce que ce serait pas la première fois qu'on a quelqu'un qui est supposé faire un procès contre quelqu'un qui a fait n'importe quoi et qu'il ne le fait pas. Donc là, c'est la question. Est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il va pas le faire? Donc d'où la question, qui est Brown Beach? Est-ce que pour l'instant, il se comporte comme un patriote ou plutôt comme un deep state? Bon, bah, il se trouve que la réponse est « on ne sait pas ». Il ouvre beaucoup la bouche. Hein. D'ailleurs, il a fait ce tweet récemment où il nous dit, si tu descends un peu, j'avais fait la traduction. Il y a cette fenêtre d'opportunité pour ce moment clé de l'histoire. Et si nous ne nous levons pas maintenant pour protéger la Constitution et l'État de droit, nous ne les récupérerons jamais. Donc là, il a l'air… Vas-y.
Mot-clé. Fenêtre d'opportunité, ce moment clé de l'histoire. Gardez ça en tête parce que c'est un truc qui revient plus tard dans la deuxième partie du live.
Voilà, donc moi, juste ce que je veux dire, c'est que là, il ouvre sa bouche et fait des déclarations en disant qu'il va faire quelque chose. On va voir s'il fait quelque chose. Et là, je vous ai mis un article en fait qui raconte un peu ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il veut faire. Il se trouve que ce monsieur-là, donc Brown Beach, veut être un candidat républicain au Sénat pour l'État d'Arizona. Et en gros, aujourd'hui, l'arène politique américaine fait que si tu es républicain et que tu veux être élu, ça marche seulement si tu as Trump qui te donne le coup de tampon et qui te dit voter pour lui. Donc là, la question, c'est est-ce qu'il va agir, avoir son coup de tampon et du coup être élu, ou est-ce qu'il va pas agir et il va baisser la tête au dernier moment et il va rien faire. Donc ça, c'est la grande question que tout le monde se pose. Mais en tout cas, s'il veut être élu et s'il veut mettre à terme ses ambitions politiques, s'il veut accomplir ses ambitions politiques, il va falloir qu'il fasse quelque chose, parce que Trump, déjà au mois de mai, lui était tombé dessus en disant donc Trump a averti que le procureur général républicain de l'Arizona, Mark Brundage, qu'aucun républicain ne votera pour lui s'il ne soutient pas publiquement les accusations de fraude électorale en 2020. Donc c'est exactement ça le nœud du problème qu'on est en train de vous porter du doigt. Vous pointez du doigt. Bon, je pense que j'ai été clair, même si mes phrases faisaient pas vraiment de sens.
Brundage a deux choses à faire pour s'assurer un avenir politique quelconque aux États-Unis. Donc, d'une, s'assurer le support de Trump pour gagner les élections pour le Sénat, c'est ça? Mm-hmm. Et ajouter une voyelle dans son nom de famille, parce que franchement, c'est un peu la galère.
Brundage. À tes souhaits. Et du coup, on a, suite au résultat de l'audit, il y a des spécialistes et des gens, on va dire, compétents qui ont pris le rapport entre leurs mains. Et un d'entre eux, c'était Sonny Borelli, qui est un sénateur, je ne sais plus dans quel état, qui dit « Toutes les preuves sont remises au procureur général de l'État, donc Brnovich, pour une enquête criminelle et ou, espérons-le, des poursuites pénales, car des personnes doivent être poursuivies pour cela. Nous avons déjà identifié 3 personnes. Leurs noms ne sont pas divulgués pour l'instant parce que, vous savez, vous êtes présumé innocent jusqu'à ce que votre culpabilité soit prouvée, mais nous voulons aussi les protéger au cas où ils se suicideraient ou disparaîtraient ou autre. » Donc, c'est on a Code Monkeysy, donc qui est le propriétaire et le créateur de la plateforme où Q a publié ses posts, ok, on a déjà parlé de lui plein de fois, qui nous donne un papier qui explique qu'est-ce qu'ils ont fait ces 3 personnes là qui avaient des clés pour entrer dans des serveurs et de ceci et de cela et la violation de ceci cela blablabla. Et en gros, Code Monkeysy qui dit le sujet 1, sujet 2 et sujet 3, donc ces 3 personnes référencées en haut, ont de gros problèmes. Brnovich va-t-il les inculper? Et est-ce que Brnovich va changer de nom de famille aussi? Donc, saviez-vous que Brnovich, c'est drôle à dire en fait, saviez-vous que Brnovich est candidat au Sénat des États-Unis? Donc ouais. Voulez-vous qu'il y ait un autre sénateur du GOP qui est faible sur l'intégrité des élections? Donc là, c'est Code Monkeysy qui demande aux gens, vous voulez encore un traître? Brnovich doit agir, mettre en accusation. Donc, le terme qu'il utilise, c'est must indict. Il doit inculper des gens pour ce qui se passe, en fait. Donc, on a les patriotes, on a vu le général Flynn, on a vu le sénateur, on a vu un paquet de gens qui sont en train de dire deux choses. Décertifier l'élection et inculper des gens. Et en fait, quand tu commences à inculper petit à petit, bah, tu ouvres des enquêtes, etc. Donc, ça peut conduire à une série de dominos. Et, bah, en fait, ça avance. Moi, j'ai pas l'impression que cet audit n'a rien fait, en fait. C'est plutôt le contraire. Moi, je vois de l'autre côté que il y a des choses qui avancent, des choses qui bougent. Voilà. Et on a Wendy Rogers aussi. Alors, on doit faire vite, hein, parce qu'on arrive à l'heure, là, et il faut qu'on laisse du temps pour la deuxième partie. Wendy Rogers.
Oui, alors en gros, elle a fait cette déclaration où elle nous affirme que 41 législateurs de plusieurs États écrivent une lettre au peuple américain pour demander un audit dans 50 États. Donc en gros, c'est ça en fait c'est le premier domino, on vous l'a dit depuis le début, Maricopa. Et si jamais le plan tel que nous on le perçoit se passe comme il se passe, on va avoir cette tache d'huile qui fait boule de neige, hein, pour refaire une blague de vendredi, et on risque d'avoir des audits un peu partout, et c'est ça qui va faire que...
Bah, et non, ça va pas se faire en un week-end.
Et je vous crois, moi aussi ça me saoule, dans le sens où il se reconnaîtra, j'ai un pari de $20 que Trump va revenir au pouvoir avant la fin de l'année, et je pense que je vais perdre mon pari. Et ça me gonfle.
Mais encore une fois, on sait pas et on attend de rien. La seule chose qu'on fait, c'est on observe, on analyse, on fait quelques projections, mais toujours en gardant en esprit qu'on a absolument aucune certitude de quoi que ce soit. La seule certitude qu'on a, c'est on sait où tout ça nous emmène. Et ça, on verra dans la deuxième partie.
Juste, donc, ouais. Merci quand même à Alexis pour tout le travail que tu fais. Tu fais du super travail. Voilà. Et que la paix t'accompagne aussi, parce que bah, je sens que c'est important de le dire maintenant.
Et d'ailleurs, moi, je vais apprendre aussi de ce qu'il a fait, parce que j'ai pris conscience un petit peu de la responsabilité, à quel point elle est gigantesque, la responsabilité qu'on a dans ce qu'on fait, en fait. Tu vois, c'est n'oubliez pas, à la base, on n'est pas des journalistes, on n'est pas des présentateurs télé, on est des Pékin lambda qui ont décidé de faire un truc. Donc, là, il y a Alexis, il fait un live où il est un peu en colère, tu vois, et il laisse ses émotions s'exprimer. Purée, quelques heures plus tard, je me fais bombarder d'emails. Ah, c'est la fin du monde, aidez-nous. Et, ouais, ok, bah, du coup, ça veut dire que ce qu'on dit, ça a un impact énorme. Ça, les amis, c'est une erreur, mais c'est une erreur qui ne vient pas forcément de nous. Nous, les décodeurs, on vous dit, soyez autonomes, soyez indépendants. Parce que là, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Vous devenez dépendant. Dépendant de qui? Bah, des gens comme nous ou comme Alexis. Mais vous choisissez de le faire. C'est pour ça qu'on vous dit, soyez autonome. Tout ça, on verra dans la deuxième partie. C'est vraiment important, soyez autonome. Il faut que votre bien-être dépende de vous. Pas de la parole de quelqu'un d'autre. Parce que là, bon sang, et si c'est autonome, porte le vent, en fait. Au niveau de un jour ça va, un jour ça va pas, on contrôle plus rien, oui.
Non, moi j'ai juste un, quand on aura fini, j'ai juste un petit point technique qui a rien à voir avec le sujet. C'est maintenant du coup. En gros, si jamais il y a quelqu'un qui vient de dire, ah, je viens d'arriver au début du live, je regarderai le début du live en replay. Je pense que c'est une bonne chose à faire parce que pour des raisons de censure et compagnie, les lives quand ils sont terminés sont très vite effacés de YouTube. Donc si jamais vous arrivez et que vous dites, ah, j'ai raté une heure de live, je me mets au début du live, je regarde la première heure. Nous, on finit le live et donc vous n'avez pas accès à la fin, vous devez attendre un jour ou deux. Donc faites comme cette personne-là dont j'ai perdu le nom.
Le lendemain, vers 13-14 heures, le live est en ligne, donc ça va.
C'est pas moi qui fais le boulot, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, si vous arrivez en plein milieu, regardez la fin du live en direct avec nous et vous rattraperez le début plus tard parce que sinon, vous serez coupé en plein milieu de l'émission et ça peut être ravant.
Ouais, surtout qu'on arrive à la deuxième partie, donc Rudy, en une minute, vite fait, Trump.
Ouais, ok, donc il a fait un rallye en Géorgie. Il y a eu quelques morceaux choisis qui sont intéressants. Vous pourrez vous les écouter chez vous. Je vous ai fait les traductions. Alors, il nous dit quoi? Tout ce que nous avons fait est si important. Ce que nous avons exposé est si important. Ce que nous faisons et ce que nous allons faire sera le plus important de tous. Donc, en gros, il fait un clin d'œil. Gros clin d'œil du genre, il y a un plan, il est en cours, ça s'approche, allons-y. Donc, vous pouvez décider de le croire, de pas le croire, chacun son opinion, mais en tout cas, il dit ça. On descend ensuite, une déclaration écrite où il parle des lois d'infrastructure, blablabla. Il nous fait une référence, il dit, ils ne peuvent pas faire cette erreur again, encore. Ils doivent jouer toutes les cartes du jeu, du paquet. Et en fait, ça renvoie à la Trump card, en fait, qui veut dire la carte atout. Il y a plein de drops de Q, je vous en ai mis un, mais il y en a plein d'autres, qui nous dit quand est-ce que vous jouez votre carte d'atout. Carte d'atout, ça se dit Trump card, pour les gens qui jouent à la belote, vous savez ce que c'est une carte qui est très très forte.
Alors, moi, ça me renvoie aussi à autre chose, c'est Alexis, il a apporté ça dans son live d'avant-hier, où il explique que le Maricopa, c'est un des états où il y a eu le moins de fraude. Donc, ils commencent avec ça. L'État profond en face, ils sont en train de jouer toutes leurs cartes pour contrer la rhétorique. Et quand ils auront tout joué, là, les patriotes, ils vont lâcher les informations sur les États où il y a eu une fraude incontestable. Et les autres en face n'auront plus de cartes. Donc, ils sont en train de les forcer à tirer à vider leurs cartouches, en fait. Et c'est pour ça, they must play every card in the deck. Eux doivent jouer toutes les cartes. Et une fois qu'ils ont joué toutes les cartes, ils n'ont plus rien. Là, c'est la contre-attaque.
C'est une interprétation qui se tient bien debout. Moi, c'était pas pour ça que je le mettais là, et juste un autre truc. Bon, là, on n'a pas mis la vidéo parce que voilà, on a dû réduire un peu. À un moment donné, il fait un très gros clin d'œil à Marjorie Taylor Greene. Vous savez, cette politique blonde qui, et il dit, ah, elle est bien, elle est très intelligente et elle sait ce qui se passe. Ah, elle sait vraiment ce qui se passe. Il insiste beaucoup là-dessus. Marjorie Taylor Greene, c'est une des politiques américaines qui a ouvertement valider QAnon, enfin Q en gros, les messages de Q et tout ça. Et Trump, il insiste très lourdement en disant, elle sait ce qui se passe, elle sait ce qui se passe. Donc encore un gros coup de marteau pas discret, en mode, hey, les gars, les patriotes, il y a un plan, Q, tout ça, ça s'en vient. Donc voilà, ça c'était quelque chose que je voulais mentionner. Et voilà, une minute, je pense que
donc voilà, donc les amis, 1h07, maintenant, on va arriver à la deuxième partie du live.